Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 11 février 2022 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce saison 3 épisode 104. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de la méga courageuse Laetitia qui ose toujours dire ce qu'elle pense même quand c'est face à des GAFAM. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news simples et funky, des sous distribués en veux-tu en voilà, des menaces de Mark Zuckerberg. On parlera des aventures d'Adrien à San Francisco et de référencement avec Arnaud depuis Boston.
Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun et on vous challengera avec des jeux autour de l'actualité de la semaine. Laetitia,
Adrien,
prêt?
Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
Quick commerce après Amsterdam, c'est au tour de Rotterdam de mettre en pause dans la prolifération des dark stores. Du coup, pendant un an, il n'y a plus aucun nouveau dark store qui va être ouvert à Rotterdam.
Monoprix lance son propre service de quick commerce, baptisé Monopop.
Glossier, on apprend tristement que Glossier va se débarrasser d'un tiers de ses employés, surtout des personnes qui sont côté tech. Ça rappelle les discussions qu'on a souvent du build versus buy. Est-ce que tu achètes quelque chose ou est-ce que tu le développes en interne? Leur stratégie désormais, c'est de reposer sur l'écosystème existant et de construire moins en interne les solutions techniques.
Pinterest dévoile sa fonctionnalité Try On For Home, qui est une fonctionnalité de shopping déco en réalité augmentée.
Solde 2022, vous avez sûrement été comme moi, vous n'avez rien vu passer. Bah, c'est un bilan mitigé pour le e-commerce, moins 26% de commandes en ligne par rapport à l'année dernière.
Et c'est Michelle Lowe, rappelez-vous, elle était venue dans l'épisode numéro 60. Je crois qu'épisode 60, c'est la saison 2. C'est Michelle qui succède à Sébastien Badeau à la tête d'Alibaba France. Si vous ne savez pas qui c'est,
et bah,
allez écouter l'épisode, elle est vraiment cool. Bravo Michelle.
Apple va lancer le Tap to Pay, transformant les iPhones en terminaux de paiement sans contact. Et je pense que c'est une mini-révolution qu'on est en train de vivre.
Année historique pour L'Oréal et nouvelle percée dans l'e-commerce. Eh oui, l'e-commerce progresse de 25,7% et représente plus d'un tiers du chiffre d'affaires de la marque.
Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Laetitia, qu'est-ce qu'on avait cette semaine?
Cette semaine, on a de la voiture, on a du paiement fractionné, on a de la seconde main. Allez, on commence avec de la voiture. Cazoo, le site de vente de voitures d'occasion britannique, vient de lever 630 millions de dollars après son entrée sur le marché français.
Il s'est arrêté 2 semaines, il s'est passé tellement de choses, il ne pouvait pas se calmer un petit peu. Alma qui lève 115 millions d'euros, qui fait entrer également Tencent au capital.
Join, l'outil de création de stories, vient de lever 4,5 millions d'euros. Ça paraît dérisoire par rapport aux 115 millions.
Vivid Money lève 100 millions d'euros. Ils ont utilisé le super buzzword pour devenir une super app financière. Bravo, bravo.
Barouders lève 1,3 million d'euros pour déployer sa marketplace de seconde main. Métaverse, métacommerce, métanews, c'est la section des news méta et NFT.
Bah écoute, on apprend Gartner, c'est plutôt des gens sérieux et qu'on pourrait dire même peut-être intelligents. Ils ont dévoilé une étude que j'ai vue passer là cette semaine. Et qu'est-ce qu'on apprend? Un quart des consommateurs vont utiliser de manière quotidienne le métavers d'ici 2026. Ça m'interroge beaucoup, 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 surtout qu'on en a parlé justement il y a 2 semaines, on a débattu autour de ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Déjà qu'au moins, donc dans ces 25%, les gens passeront au moins 1 heure par jour à travailler, à faire du shopping, à étudier, à rencontrer d'autres personnes ou à consommer du contenu. Ça me paraît vraiment beaucoup, surtout que 2026, c'est demain, c'est dans 4 ans. Ça va plutôt dans ta prédiction, du coup, parce que toi, tu étais très optimiste à dire que ça allait aller très, très vite et que le métaverse, c'est aujourd'hui et c'est même demain, donc ça allait prendre très vite. Moi, je suis beaucoup plus sceptique et je pense que ça prendra plus de temps. Ils sont d'accord pour dire que le marché est très fragmenté. Comment ils ont fait pour calculer ce 25%? Et c'est là-dessus que je me questionne. Ils ont fait des prévisions en regardant les acquisitions d'aujourd'hui, en parlant aux acteurs et aux consommateurs. acteurs. Donc, quand tu parles aux acteurs, bien sûr qu'ils sont optimistes sur les chiffres et vont aller dans la même direction. Donc, écoute, on va revoir si on est là dans 4 ans pour voir si on va dans cette direction. Je trouvais ça étonnant de la part de Gartner d'être aussi optimiste en publiant ce rapport. Donc, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Toi, tu crois, Laetitia? Tu penses qu'on peut y arriver là? 25% des consommateurs d'ici 2026?
Non, je pense que 2026, c'est comme tu dis, c'est demain. Et je sais pas, mais généralement, Gartner, ils sont assez frileux. Et là, ils sont tout en joie. C'est étrange.
Écoute, on va voir s'ils ont raison ou pas. Bah, 2026, comme c'est demain, la bonne nouvelle, c'est que dans 6 mois, 12 mois, on va voir si ça accélère ou pas. Et on pourra savoir si la tendance est bonne.
La news what the fuck de la semaine. Adrien, qu'est-ce que tu as retenu? Enfin, des 2 dernières semaines, du coup, parce que cette news, elle est pas si
fraîche.
Ouais,
puis j'en avais plusieurs de what the fuck. J'en ai choisi une seule. Celle qui m'a vraiment étonné, c'est Brut et Carrefour qui s'allient pour proposer une offre de live vidéo shopping. C'est deux acteurs que j'aurais pas du tout imaginé s'associer et surtout pas se positionner sur le live vidéo shopping. Alors oui, il y a vidéo chez Brut, oui, il y a du shopping chez Carrefour. Après, les deux, un est site média et l'autre est retailer. Ça va s'appeler Brut Shop. Carrefour explique qu'ils ont fait une 50aine de lives l'année dernière, qu'ils ont appris beaucoup de choses et donc ils sont prêts à se lancer. Ça va être une solution, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Ce Brut Shop, ça va être une solution qui va être ouverte pour d'autres enseignes, d'autres marques. Et Carrefour, pour eux, ils veulent toucher une cible plus jeune, une cible de 15-34 ans, qui est la cible Brut. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est what the fuck, c'est que tu demandes à un site média et à un retailer de créer une solution technique et de la vendre sur le marché. Je suis pas sûr. Mais cela dit, Carrefour, ils continuent à faire ce qu'ils font très bien, communiquer, se positionner sur les tendances et être les premiers à tester, à avancer. Donc ça, on ne peut pas leur enlever ça. Je suis juste, même si à la limite, même s'ils n'arrivent pas à le développer, mais qu'ils l'utilisent eux-mêmes en interne, je crois qu'ils utilisaient l'autre startup, j'ai oublié le nom.
Cast.
Derrière, donc
Cast
voir, TV. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc à voir si derrière, c'est du Cast en marque blanche. Je ne suis pas certain. Je pense plutôt justement que c'est du Brut qui ont développé leur truc. Donc écoute, on va voir, mais ça m'a vraiment étonné cette association. Tu as vu passer la news?
Ouais, j'ai vu passer la news et moi je suis moins surprise que toi parce que Brut, c'est au-delà d'un média, bah, tu vois, ils sont aussi présents dans des offres payantes, donc bah, il y a quand même du e-commerce, il y a quand même du transactionnel. Ils ont vachement révolutionné tout ce qui est format vidéo à la verticale, donc ils sont assez précurseurs. Ils ont développé non pas uniquement une offre de news, mais ils sont plutôt sur de l'infotainment. Donc moi, ça me choque pas plus que ça qu'il y ait cette alliance et je suis curieuse de voir à quoi vont ressembler les live shopping du coup sur Brut parce que je pense que ça peut donner un petit coup de jeune, un petit coup de frais et que ça peut peut-être faire effectivement son effet sur la cible qui est visée. Donc moi je suis beaucoup moins sceptique que toi parce que Brut, c'est enfin le média et le traitement de la news, c'est alors faut pas oublier que c'est fondé aussi par un mec qui vient de la télé, hein, Brut, hein. Donc c'est un mec de Canal+, donc du coup je pense qu'il sait très bien ce que c'est que l'infotainment et je pense pas qu'ils vont trop se louper sur ça.
Individuellement, ils sont bons dans leur secteur. Mon point, c'est de dire qu'ensemble, ils se positionnent sur quelque chose qu'aucun d'eux ne fait complètement. Mais effectivement, s'ils sont très bien,
c'est de dire que justement, les deux sont très bons dans leur domaine. Donc, ça peut que faire quelque chose de très bien.
La news inutile dont on s'emballette, Laetitia, qu'est-ce que tu avais choisi cette semaine?
C'est un petit peu la menace de Mark Zuckerberg qui, en début de semaine, a dit qu'il menaçait de fermer Facebook et Instagram en Europe. Alors, vous le savez, ça ne lui plaît pas trop tout ce qu'on a ici, le RGPD qui interdit notamment le transfert des données personnelles des utilisateurs européens vers un pays tiers et en l'occurrence vers les États-Unis. Donc, Mark, en début de semaine, il était un peu vénère. Hein, donc, il a dit, puisque c'est comme ça, j'exagère, je menace de fermer mes services en Europe. Alors c'était rigolo parce que tous les gens qui avaient un peu surinterprété son... Enfin, on sait très bien qu'il ne partira jamais, l'enjeu est beaucoup trop important. Mauvais signal en plus à envoyer aux investisseurs et à tous ceux qui rigolaient un peu, mais qui se moquaient des derniers chiffres de Meta. Mauvais signal, mauvais coup de com' de la part de Meta et surtout de Mark Zuckerberg, un peu incontrôlable en ce moment. Mais la réalité, c'est que non, il ne peut pas partir. Et alors c'est marrant parce que je voyais beaucoup de choses passer en mode « les gens ont peur ». Qu'est-ce qu'on va faire sans Instagram alors que ça crée de l'emploi, alors qu'il y a plein d'influenceurs, plein d'influenceuses? Bon, la question, enfin, on n'en est même pas encore là. Et la réalité, c'est que non, Meta restera bel et bien en Europe. En tout cas,
Oui, c'est très vite rétracté. À mon avis, c'était simplement un coup de pression. Ouais. Il n'y croyait pas lui-même,
il s'est
pas rendu compte de ce qu'il disait. Et je suis pas certain que beaucoup de gens étaient. Enfin, il y en a peut-être qui se sont préoccupés, mais moi, ça m'a juste fait sourire. C'est juste ridiculisé. Mais bon, encore une fois, tout le monde aura oublié dans quelques semaines, malheureusement, et ça pèsera pas beaucoup. En tout cas, c'est bien que l'Europe soit unie et qu'on puisse tenir face à ces GAFAM. Non, tu crois pas?
Ah bah si. Non, c'est surtout qu'il s'est rétracté sans que l'Europe lui réponde quoi que ce soit. Donc. Marc est en roue libre.
Ouais, je crois que si. Il y a pas Instagram, là, le maire qui a fait un truc. Dire, on peut vivre sans toi. Tu peux le barrer.
Ah, j'ai pas vu ça.
Ouais, si. Je crois qu'il y a eu un truc entre temps. Tu vois, pour dire, bah, ok, on a vécu sans Facebook, on vivra sans Facebook. Donc, il y a eu un petit truc entre temps. Mais bon, ils ont réagi très très vite. Hein,
deux trois jours avant, enfin, il perdait des. Il annonçait ses chiffres en disant qu'il perdait beaucoup d'utilisateurs sur Facebook. Donc, bah, écoute, si c'est ta réponse, tu te fermes.
Attends, moment. Exactement. Quoi de neuf chez nous, la rubrique préférée de tous les auditeurs, bien entendu. C'est la rubrique où on parle de nous, de ce qui s'est passé du coup, de ces deux dernières semaines dans nos vies, dans l'e-commerce. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé chez toi?
Plein de choses, mais du coup, j'ai dû retenir uniquement... Allez, trois news. Promis, je fais vite. La première news, c'est un commentaire qu'on a reçu sur le store US. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce réflexe-là d'aller voir sur les autres stores. Et du coup, c'est bien parce que, en fait, on a d'autres avis et d'autres commentaires. Et là, je vous lis le commentaire de Ramenos qui nous a laissé ce commentaire en tout début d'année. Cela fait maintenant plus d'un an que je vous écoute depuis Boston. Très bon podcast francophone e-commerce. Continuez comme ça et surtout ne supprimez pas la rubrique Quoi de neuf chez nous qui vous personnifie. Bonne dynamique de speech entre Adrien et Laetitia. On sent que vous faites ça pour le plaisir. Épisode 100, bien fun, que j'ai écouté en plusieurs fois. Alors j'adore ce commentaire.
J'ai pas à y croire. Ah non, il a duré 2 heures l'épisode. Comment
l'épisode
tu écoutes en plusieurs fois. Ah oui, d'accord.
En plusieurs fois.
Il est trop long pour écouter en une fois.
Moi, c'est l'épisode que je déteste peut-être le plus. Et en plus, il adore la rubrique que je déteste le plus. J'aurais peut-être pas dû lire ce commentaire. Mais en tout cas, merci. Continuez à nous laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. La deuxième news de ma semaine, donc de mes deux dernières semaines. Adrien, est-ce que tu as déjà utilisé l'application Sunday? Est-ce que tu sais ce que c'est que Sunday?
Pas du tout.
Sunday, c'est l'application qui a été lancée par les fondateurs et fondatrices de Big Mama, tu sais, la chaîne de restaurants.
Yes.
Et qui, il y a maintenant, ça fait juste un an qu'ils ont lancé ça. Ils ont déjà levé beaucoup d'argent. Et donc, je suis rendue dans un restaurant où on utilisait l'application Sunday. Donc, avec le fameux QR code, j'ai téléchargé le menu et surtout, j'ai pu payer ou avoir même partagé l'addition quand on est à plusieurs. Du coup, j'ai utilisé, j'étais trop contente. Voilà, je paye, je pars. J'étais la dernière à partir et là, la serveuse me rattrape en me disant « Madame, vous n'avez pas payé ». Et je lui dis « Mais si madame, j'ai utilisé l'application Sunday ». Bon, elle n'avait pas eu le retour en caisse parce qu'en fait, cette application, elle est connectée aux caisses et elle n'avait pas reçu l'information. Et puis après, du coup, je lui dis « Mais je ne comprends pas, vous avez dû recevoir l'information, donc on va voir dans sa caisse, machin ». Elle n'avait rien reçu. Heureusement que moi, prévoyante, j'avais fait une capture d'écran et puis que je pouvais toujours aller sur la page qui prouvait que j'avais payé. Tout ça pour dire que ce n'est pas encore au point, c'est joli, ça fait un peu gadget. Pour les gens un peu comme moi, un peu geek à un certain niveau, c'est rigolo. Mais quand les gens ne sont pas prêts... l'expérience utilisateur, elle est un peu déceptive, on va dire. Parce que se faire traiter de voleur et se faire courir dans la rue comme ça, ça fait jamais plaisir.
Et t'as traité de voleur? Non, pas à ce point.
Non, pas à ce point, mais quand même,
ouais,
tu vois.
T'inquiète.
Vous n'avez pas payé.
En fin de service, c'est toujours ceux qui essaient de s'esquiver, là.
Non, ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même, tu vois, quand tu mets en place des outils comme ça... il faut former le personnel, quoi, tu vois. Et c'est pareil quand tu vas dans des boutiques avec des vendeurs qui sont munis de tablettes. Voilà, là, c'est la même chose. Et la réalité, c'est que cette formation-là, elle n'a pas eu lieu, qu'il y a eu un petit bug technique et qu'elle ne savait pas trop comment faire. Et je pense qu'elle prenait aussi un risque en me croyant et en se disant, ouais, mais moi, je ne le vois pas.
C'était utilisé, elle te disait que c'était utilisé, cette fonctionnalité ou pas?
Ouais. D'ailleurs, j'y suis retournée en plus, tu vois, dans ce resto. Et c'est assez courant, quoi. Mais du coup, c'est étrange parce que t'as pas grand monde qui vient te voir et qui vient te parler. Mais c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé, sauf me faire courir dans la rue pour repayer l'addition. Troisième news, c'était c'est Up Days. Donc c'est l'événement qui est organisé annuellement, toujours à la même période. C'est un événement organisé par le Hub Institute et c'est dédié au retail et au e-commerce. Alors je m'y suis pas rendue physiquement, en revanche j'ai suivi en ligne. Ce que je peux te dire, c'est que déjà techniquement, ça tient la route, il n'y avait pas de bug. J'ai suivi pas mal de conférences, pas mal de masterclass avec des marques assez sympathiques, beaucoup d'éditeurs, j'ai trouvé. Alors, je ne sais pas si, parce que moi, je viens de ce monde-là, mais bon, j'ai l'impression de soit de connaître tout le monde ou soit d'avoir déjà entendu ça précédemment ou lors d'autres événements. Et j'ai retenu une conférence qui m'a vraiment mis du baume au cœur. Et bah, c'est TikTok qui a pris la parole avec un client. Et TikTok qui nous a parlé de community commerce et la puissance de ce que c'était que de faire du commerce grâce à la communauté. Je ne vais pas vous expliquer en long en large comment fonctionne TikTok, mais il y a un cas client qui m'a bluffé. C'est Picard qui ne décide pas de faire de campagne, bien au contraire, ça vient de la communauté. Pendant le confinement, les gens qui allaient faire leurs courses pendant la seule heure qui nous était dédiée à flâner, les gens allaient se ravitailler en mochi. Et puis très vite, il n'y avait plus rien chez Picard. Et alors Picard s'est dit, mais pourquoi, comment? En fait, c'est simple, les gens allaient et disaient, si vous voulez des bons mochis, allez chez Picard. En gros, tout partait des TikTokers qui vantaient les mérites des produits et invitaient les gens à se rendre dans les Picard. Le temps que Picard comprenne que c'était la communauté qui avait fait tout ça, ils ont répondu eux-mêmes. Et en fait, c'était les vendeurs qui filmaient les réassorts, qui mettaient des petites étiquettes où il y avait écrit « Victime de son succès sur TikTok »,« TikTok qu'en parle », voilà. Et en gros, cette conférence vous expliquait que bien souvent sur TikTok, ça ne part pas des marques, mais ça part de la communauté qui va en parler sur TikTok et TikTok qui va ramener du monde en magasin. Donc, moi, j'ai trouvé assez sympa parce que tout part d'une conversation. Et comment d'une conversation on part vers de la conversion, et c'est la puissance TikTok.
Et ça sert à rien de faire le forceur, si ça prend pas, ça prend pas, mais quand ça prend de la communauté, ouais, là c'est inarrêtable, quoi. Donc c'est super. Et c'est bien qu'ils aient rebondi dessus, donc bien joué.
Très malin de leur part. Ouais.
Et puis maintenant ils en parlent en case study avec TikTok, ouais. Donc
c'est plutôt pas mal,
ça fait de la bonne pub. Puis il y a quelques années, tu vois, je travaillais justement directement sur le projet Picard quand ils ont refondu leur truc. C'était, tu n'associais pas du tout Picard à une marque innovante. Et ils ont fait tellement de choses ces dernières années, ils sont transformés. Donc vraiment, vraiment pas mal. C'est cool de voir la trajectoire qu'ils ont prise.
Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu nous ramènes de tes valises San Francisco?
Je peux pas déclarer tout ce que j'ai pris. Non, je rigole parce qu'il y a des rumeurs qui circulent à mon sujet. Bah écoute, ouais, j'étais à San Francisco. Je crois que je l'avais dit il y a deux semaines. J'y étais pendant une semaine. C'était plutôt intéressant. Peut-être deux choses. En fait, j'avais noté plein de notes, mais pour faire simple, c'est la première fois que j'ai pu tester une Tesla. Passager.
T'as pas conduit la Tesla?
Jamais. Ouais. Non, je l'ai pas conduit, mais déjà entrer dans une Tesla, j'étais comme un enfant. vraiment, la première fois, c'est juste génial, quoi. T'es comme un enfant. Il y a pas à dire.
T'étais à l'avant ou t'étais à l'arrière?
Ouais, j'étais à l'avant. Donc j'ai appuyé sur tous les boutons du tableau de bord.
C'est
joué.
Quel modèle?
Je sais pas. Je crois que c'était modèle S. Je crois que c'était modèle S. Et en fait, t'as une fonctionnalité prout. Enfin bon, ceux qui savent, ils doivent savoir. Mais bon, c'est ce genre de truc où tu te dis non, c'est une blague, c'est un add-on, c'est un truc que t'as pris. Non, c'est en standard. Donc voilà. Donc c'est super sympa et coïncident. Donc c'était la première fois de ma vie que je monte dans une Tesla. L'après-midi, je commande un Uber et c'est une Tesla qui est venue me chercher. Donc là, j'ai trouvé ça waouh, c'est vraiment très 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 répandu, parce que même j'avais entendu parler qu'il y avait pas mal de Uber qui avaient des Tesla. Donc du coup, j'en ai eu deux pour la même journée, donc c'était assez fun. Et la deuxième chose, j'ai pu regarder un petit peu dans mes contacts LinkedIn qui étaient à SF et j'ai retrouvé nos copains de Quire. Donc c'est une start-up fondée par des Français. Je dirais pas que c'est une start-up française parce qu'ils sont basés aux États-Unis.
Ils sont américains maintenant.
Voilà, c'est ça, ils sont basés aux US et puis ils ont, je crois, un petit bureau au Canada, il me semble. Donc c'était super sympa d'aller les voir dans leur bureau, de papoter, de discuter avec eux, de regarder, enfin de qui m'explique un petit peu le marché américain, comment ils se développent, les challenges qu'ils ont eus et puis les plans qu'ils ont pour cette année. Et pour info, c'est le One Click Checkout, je crois que ça s'appelle comme ça, ce segment où tu peux avoir un bouton sur n'importe quel site et tu peux acheter en un clic. Donc voilà, c'était un week-end, enfin une semaine assez chargée. C'était super intéressant. Je me verrais pas vivre à SF ou aux États-Unis. En tout cas, c'était bien cool.
Pourtant, il y a des Tesla qui ont des fonctionnalités prout. Donc
ouais, il y a plein de trucs assez fun, quoi.
Et t'as pas été dans un Amazon Go?
J'ai voulu y aller, mais j'ai pas eu le temps. Tout le monde, ce que j'ai kiffé, c'est que t'as vraiment l'impression que tout est plus avancé. Je sais pas, mais par exemple, le test Covid, donc il faut se faire tester avant et après. Je suis allé là-bas pour me faire tester. Tout est sur tablette, on se touche pas, tout est digitalisé. Ta prise de rendez-vous, l'envoi du rapport aussi, ça allait en France, mais il n'y a pas un seul papier qui traîne, quoi. Donc c'est vraiment cool, quoi. Donc non, c'était vraiment agréable. Et pareil dans les restaurants. restaurant. C'est vrai que on voit de plus en plus la commande directement à la table. Donc, il y en a qui vont dire, on perd le contact. Moi, je trouve ça plutôt pratique de pouvoir commander soi-même et que ça aille vite, quoi. Donc, c'était une bonne expérience. Et puis, si j'ai plus de temps la prochaine fois, je testerai justement l'Amazon, les magasins Amazon et d'autres innovations locales. Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois, c'est la section Breaking News. Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous ?
Eh bien, je vous ramène des news de Belgique, parce qu'il y a un grand débat qui, chez nous, a peut-être déjà 15-20 ans, qui est le débat du e-commerce. Est-ce que le e-commerce est en train de tuer nos commerces de proximité ? Est-ce que le grand méchant Amazon a tué les entrepôts ? Est-ce qu'il faut régulariser le travail, notamment dans les entrepôts ? Donc c'est un vrai sujet, parce qu'en fait c'est le chef de file du Parti Socialiste en Belgique qui a balancé ça en disant que en réalité il va falloir arrêter et annoncer très prochainement la mort du e-commerce en Belgique, parce que ça tue des emplois. Alors je vais pas refaire reciter les arguments, c'est des arguments qu'on entend très souvent ici, mais du coup ça commence à se propager un peu en France. Ce matin je l'ai entendu plein de fois à la radio, j'ai même tweeté en leur disant mais venez écouter le café de l'e-commerce, vous allez comprendre, parce que du coup ça reprend toujours des éléments très basiques, très simples, du style on vient de le citer, du coup ça tue nos petits commerces et puis on peut pas discuter avec notre boulanger et machin. Non, en fait c'est pas que ça le e-commerce, et c'est pas un remplacement de quelque chose, et le but de l'e-commerce, c'est pas bien évidemment de tuer le commerce en règle générale. Et du coup, c'est marrant, parce que je me dis que les débats n'évoluent pas et que 15-20 ans après, l'e-commerce est toujours pointé du doigt et toujours avec des arguments toujours aussi pourris, quoi. Donc ça me fait rire, en même temps ça m'énerve un peu, parce que si on pouvait venir avec d'autres arguments, peut-être que moi je changerais d'avis et peut-être que j'arrêterais le podcast et peut-être que je travaillerais plus jamais dans l'e-commerce. Mais là c'est un peu niveau zéro, on va dire, de l'argumentaire, même si j'entends bien que c'est compliqué pour les boutiques, alors qu'en France on fait quand même tout pour préserver le commerce de proximité. Et encore une fois, je pense que c'est plutôt aux acteurs locaux, d'arrêter de distribuer des beaux commerciaux pour des grandes enseignes, par exemple, et peut-être favoriser les commerces locaux. Voilà, je ne sais pas si tu as vu passer ça, Adrien, et qu'est-ce que ça t'inspire ?
Non, mais moi, j'en vois chaque fois. Tous les mois, on va dire régulièrement, je vois passer donc ces articles qui disent fin du e-commerce. Le dernier, c'était il y a quelques jours. Et je suis tombé dedans, parce que moi, j'adore voir, c'est quoi les arguments que tu as avancés. C'était sur la fin des centres commerciaux. Donc, je me dis, balance-moi des arguments que je connais pas. Je suis prêt à les écouter. Et en fait, tu lis le truc, c'est assez creux. Ça dit finalement que c'est en train de se transformer. Tu déportes des choses physiques vers le numérique, parce que c'est plus convenient, c'est plus facile, on va dire, pour les consommateurs. Et les gens iront dans les centres commerciaux pour autre chose. Donc oui, ça va se transformer. On aura peut-être moins au ciné, le cinéma prendra peut-être moins de place, mais il y aura d'autres choses qu'on va utiliser l'espace différemment. Donc je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu. Et puis après, de toute façon, le monde, il est en train de se transformer. Donc il faut juste accepter. Je ne sais pas, mais en tout cas, se dire, ce n'est pas l'un qui va remplacer l'autre. Il va y avoir toujours des synergies, et c'est ce qu'on voit de toute façon. Donc, pour reprendre ce que tu as dit, oui, il y a des choses qui vont disparaître, mais oui, il y a des choses aussi, énormément de choses qui vont être créées et transformées.
Amazon. Qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes, brûlantes d'Amazon.
Il y a eu un paquet de news sur Amazon ces dernières semaines. La grosse, c'est l'annonce des résultats financiers pour le quatrième trimestre. Donc, ils étaient phénoménaux. On vous a mis un lien, donc vous allez regarder dedans et puis vous verrez, il y a du plus partout, c'est magnifique. Les bénéfices nets qui ont pratiquement doublé donc quatrième trimestre 2021 par rapport au dernier trimestre 2020, les revenus d'AWS, donc c'est la partie cloud d'Amazon, qui ont bondi de 40% pour presque 18 milliards de dollars, l'action qui a grimpé de 10%, etc., etc. Ça, je vous laisserai découvrir tout ça. Après, tout n'est pas extraordinaire, parce que en termes de marge, etc., il y a eu un petit peu, c'est pas au top. Les prévisions sont en deçà de ce qu'ils espéraient. Mais bon, peu importe. Il y a deux choses, moi, qui m'ont marqué et que je voulais partager. Je voulais avoir ton avis. La première chose, c'est que la publicité représente 7% des revenus totaux d'Amazon. Amazon génère des revenus publicitaires au-delà de sa plateforme. Et en fait, nous, quand on parle de publicité, on s'imagine, c'est le retail media, c'est la publicité qu'il y a sur le site Amazon.fr ou .com, mais en réalité avec Prime Video, avec, avec son Fire TV, là, son interface, on va dire, de télé. Il y a aussi de la publicité et on se rend compte, bah, de toute façon, c'était la stratégie, que Amazon se diversifie et dans son écosystème, ils vont pouvoir pousser de plus en plus de publicité et ça commence à peser réellement. Donc, demain, à dire que Amazon, c'est une régie pub, on fera qu'un pas. Et la deuxième chose, et après, je te laisserai commenter les deux choses, c'est qu'aux États-Unis, parce que je pense qu'elles sont liées légèrement, aux États-Unis, c'est Amazon et pas Google qui est devenu le point de départ des acheteurs en ligne. J'ai vraiment eu du mal à y croire. 74%, donc 74% des consommateurs américains commencent leur recherche de produits sur Amazon. Et ça, pareil, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'y aurais pas cru, surtout quand on connaît la prédominance de Google. T'as d'un côté des consommateurs qui vont sur Amazon spécifiquement pour chercher des produits, presque trois quarts des consommateurs américains, et d'un autre côté les revenus d'Amazon qui augmentent en publicité. Ça t'étonne ou tu sentais que ça allait prendre de plus en plus de part et ça confirme la stratégie d'Amazon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas?
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, du coup, mon avis,
on aime
c'est
ou qu'on
que...
déteste Amazon dans le shopping game. Non, déconne, vas-y.
Alors moi, ça m'étonne pas du tout qu'Amazon est en train de se transformer en régie média, pour reprendre ton premier point. Amazon s'en est jamais caché, Jeff Bezos non plus. Bon, sens de l'histoire, quoi. Et puis surtout qu'on voit que maintenant, ils ont acquis des droits importants, notamment dans le sport. Voilà, je vais encore reciter ça parce que je crois que je le dis que ça dans cet épisode, mais on va vers de l'infotainment et quand on va vers de l'infotainment, faut de la pub. Et je trouve que Amazon applique les règles comme il se doit dans la pub. Donc je suis pas tant étonnée que ça. Sur ce que tu disais, le deuxième point qui était les recherches, moi ça m'étonne pas parce que je fais partie des gens qui ne recherchent pas sur Google mais directement sur Amazon. Et en fait, c'est mon réflexe premier. Donc pour moi, le monde réagit comme ça aussi, ce qui visiblement n'est pas vrai. Mais ça m'étonne pas. Et je sais que Google galère très souvent à être un vrai moteur de recherche pour le shopping. Et je sais même pas si tu vois l'onglet shopping fonctionne aussi bien.
Si,
a priori,
non. Ouais.
Ah voilà, bah,
mais
moi, pas
il
du
est
tout.
Pas aussi efficace. Voilà. J'utilise tout le temps Google Shopping. Bah, mais,
ouais, moi je trouve.
Ouais, c'est bidon, quoi.
Ouais, je suis hyper déçue. Alors que sur Amazon, c'est fluide, quoi. Enfin, la recherche, elle prend pas 10 ans. Et puis, ça répond aux exigences du consommateur, en tout cas de mes exigences. Donc, je suis pas choquée, mais en réalité, ça répond à mon usage. Donc,
On apprend aussi que l'abonnement Prime aux États-Unis, il augmente de 20%. Il est à 140, il va être à presque $140. Donc, on pourrait dire que c'est beaucoup. Mais en réalité, pour tous les services que tu as, Amazon perd énormément d'argent. Mais on le sait, c'est une sorte de cheval de Troie. En tout cas, c'est une manière de fidéliser et d'accrocher les consommateurs. Donc, ce n'est pas le vrai sens du propos. Ce qui est important pour eux, c'est qu'une fois que tu es Prime, comment est-ce que tu interagis avec la plateforme et comment tu continues à rester fidèle. Donc, écoute, tout est au vert pour Amazon et ça va être encore de plus en plus difficile à les faire trébucher.
Un café avec, c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept que nous n'avons pas l'habitude de traiter, ni Adrien ni moi-même. Cette semaine, on prend un café avec Arnaud Mangassarian pour parler de SEO.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Arnaud. Bonjour Arnaud.
Salut Adrien.
Eh bien, écoute Arnaud, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais pour qu'on puisse échanger ensemble.
Oui, alors donc je m'appelle Arnaud, je suis français, canadien d'origine arménienne et je suis manager SEO pour la partie technique et mesure de la performance chez Vista, qui est anciennement Vistaprint, se sont renommés récemment, pour lequel je suis en charge du coup de la partie SEO pour 22 pays, qui vendent leurs produits à travers 22 pays et je travaille avec une équipe de spécialistes qui sont répartis entre les États-Unis, Barcelone et Tunis. Je suis tombé dans la marmite du SEO, on va dire, début 2005, lorsque je faisais mon master à l'éthique, parce que, au final, on faisait des sites web, et puis je me posais la question, à quoi ça sert d'avoir une super vitrine si elle est invisible? Et, à la suite de ça, je suis parti au Canada en 2010, et depuis 2018, en fait, je travaille pour Vista dans la région de Boston.
Ouais, c'est ça. Là, on enregistre, tu es à Boston. Donc, merci encore de faire l'effort de te connecter pour cet enregistrement. Et puis, moi, effectivement, on se connaît depuis plus de 15 ans et je t'ai toujours connu dans le SEO. Il y a beaucoup de personnes qui commencent et qui évoluent, qui changent de secteur ou qui pivotent. Et tu as toujours été dans le SEO. Donc, il y a énormément de choses que je voulais discuter avec toi aujourd'hui et je suis ravi de pouvoir échanger avec toi autour du SEO. Et peut-être ma première question va être super simple. Le SEO, c'est super large et tous les sites en ont besoin. En quoi le SEO pour l'e-commerce, parce qu'on est dans le café de l'e-commerce, il est spécifique ou il y a des choses particulières par rapport à un site ou un projet classique sur lequel tu aurais pu travailler?
Alors, la première chose, je dirais que vu que c'est pour un site e-commerce, il va y avoir un besoin de mesurer des performances à différents plans pour, bah déjà à l'interne, faciliter la compréhension du channel SEO et aussi pour pouvoir associer tout le travail que tu fais à une valeur monétaire. Donc, ça peut très bien être comment SEO et paid search se complètent, la capacité à faire des estimés pour pouvoir faire passer ces recommandations. Et évidemment, c'est très, très rapproché de valeur monétaire parce que tout se mesure avec combien de produits je vais vendre grâce au channel SEO, en fait, au final.
Arnaud, du coup, toi, là, ça fait des années que tu travailles sur le marché et que tu bosses pour des sites e-commerce notamment, mais pas seulement. Je voulais échanger autour de certaines idées reçues qu'on peut avoir. Et tu as préparé trois idées reçues que tu vois le plus souvent quand tu échanges avec des marques, des collègues ou des retailers. Est-ce qu'on peut commencer par la première? Alors, c'est quoi la première? Et je les découvre avec toi. Alors, je les découvre plutôt avec les auditeurs. C'est quoi la première idée reçue dans le SEO e-commerce?
Alors, la première idée reçue, c'est pas spécialement que pour le e-commerce, mais c'est quelque chose que j'ai entendu assez souvent dans mon cas. On peut pas faire de test A/B en SEO parce que Google n'indexe qu'une version de la page. Ce qui est vrai dans l'absolu. Mais aujourd'hui, tu peux quand même trouver des façons lorsque tu connais bien ton site e-commerce et tu connais bien tes produits et tu sais que tu peux, par exemple, scinder tes produits en deux catégories et que tu connais le cycle de vie de tes produits avec l'évolution et la saisonnalité. Rien ne t'empêche quand même de scinder ça en deux et de modifier, on va dire, une partie de tes produits, pas l'autre, et de voir un peu comment ça évolue. Donc, test A/B, c'est pas possible, mais tu peux quand même trouver une façon de comparer, on va dire, certains changements.
Et là, on parle de test A/B dans le cadre du SEO, c'est ça? Donc, revoir un peu le copywriting, l'optimisation de la page pour voir quelle est la page qui performe le mieux sur les moteurs. On parle bien de ça? Ou tu parles en général de test A/B et quel est l'impact que ça peut avoir, négatif ou positif, sur les moteurs?
Alors, en fait, quand tu vas faire ce test, effectivement, tu peux. Bah, Google va quand même indexer une des versions de la page seulement.
Ouais.
Le test va nous servir pour savoir comment vont réagir les personnes qui vont arriver sur la page. Donc, par exemple, d'un point de vue SEO, ça va être, on va avoir une mesure de succès qui va être plus à proprement parler dans le site. Donc, je vais avoir le taux de rebond sur la page produit ou le pourcentage de gens qui sont allés jusqu'au panier ou le pourcentage de gens qui ont converti, tout simplement le taux de conversion, ce genre de choses. Et ça, on peut le faire. Et du coup, même si c'est pas un test A/B purement SEO à proprement parler,
ouais,
en termes de positionnement, ce genre de choses, c'est plus le but, c'est vraiment d'acquérir plus de clics qualitatifs, on va dire. C'est comme ça que je le verrai.
Ok, Arnaud, deuxième contre-vérité alors, deuxième idée reçue.
Ce que j'ai vu, c'est que la plupart des gens se focalisent beaucoup sur Google Analytics, donc les données on-site, et boudent souvent les données Search Console, alors qu'en fait, les données Search Console sont clairement les données les plus précieuses d'un point de vue métier pour le SEO, puisque c'est là que tu vas pouvoir mesurer la demande, le potentiel de croissance, les nouvelles tendances, les forces et les faiblesses pour tes produits, l'impact des changements que tu as fait dans la SERP, ce genre de choses.
Moi, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu, Arnaud. Déjà, il faut la base. Bah, il faut que tout le monde utilise Google Analytics. Enfin, on a un outil d'analytics. C'est le plus important. Donc, avant même de regarder autre chose. Enfin, en tout cas, c'est complémentaire. Mais oui, c'est quelque chose qui est super important. Et pour le coup, Search Console, je trouve que les données. Et peut-être que je me trompe, mais les données, elles sont pas hyper précises. Tu vois, certaines, parfois, t'as des informations qui sont floues, t'as des tendances, mais donc ils te partagent, mais ils t'offrent pas tout, ils te donnent pas tout. Est-ce que tu peux quand même prendre des décisions? Est-ce qu'il y a quand même des données qui sont vraiment hyper actionnables que tu utilises toi au quotidien? Ou est-ce que c'est plus avoir un outil que tu regardes une fois de temps en temps pour voir s'il y a pas des choses, des red flags?
Alors certes, l'outil n'est pas parfait. Il y a de l'échantillonnage. Lorsque tu utilises l'API de Google, tu peux quand même avoir accès à un immense nombre de données qui va te permettre de prendre tes décisions de façon mensuelle ou même à la journée, en fait, selon comment les performances évoluent. Et en fait, non, c'est là que tu vas pouvoir, quand tu regardes les performances pour une page et que tu vois quels sont les mots-clés qui génèrent le plus d'impressions et que tu vois qu'il y a des mots-clés, par exemple, où le taux de clic est très mauvais, ce genre de choses, bah, tu vas pouvoir analyser, OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qui a changé dans Google qui fait en sorte que ma performance a baissé sur ce mot-clé alors que c'est un des mots-clés les plus importants pour ce produit. Donc, ça va quand même permettre de me prendre pas mal de décisions et de prioriser, en fait, quelles sont les pages qu'il va falloir travailler. D'un point de vue visibilité, bien sûr, j'entends.
Et même si ton volume est bas, tu peux quand même, les données sont quand même fiables? Ou c'est surtout intéressant quand tu as un trafic important?
C'est une bonne question. Quand le volume est bas, c'est sûr que tu vas avoir moins d'informations à regarder. Après, dans le cas d'un site e-commerce comme Vista qui génère vraiment beaucoup de visites, c'est une bonne façon de voir des tendances. Donc, tu vas pouvoir comparer, par exemple, tout ce qui est la demande pour tout ce qui est trafic brand, versus non-brand, versus product brand. Ouais. Désolé pour les anglicismes. Et ça, en fait, c'est super important parce que ça donne l'information très utile aux gestionnaires de produits. Ils peuvent savoir quel est un peu le ressenti des potentiels visiteurs par rapport à leurs produits ou leurs marques.
Arnaud, troisième idée reçue.
Les SEO, c'est des mots-clés et un peu de technique et puis c'est tout. Alors ça, c'est un peu... tu vois, donc ça, c'est le genre de choses qu'on reçoit de temps en temps en interne. Et il ne faut surtout pas le prendre mal parce que c'est vrai que le SEO est un métier qui, au fur et à mesure des années, a été très décrié. T'entends un peu tout et son contraire. Et il y a des choses à savoir, c'est que les fondamentaux sont toujours là. Hein, c'est oui, c'est des mots-clés. Oui, c'est des liens. Oui, c'est de la technique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde dans lequel tout ça se passe a évolué. Je veux dire, les moteurs de recherche ont bien évolué et on peut pas se cloîtrer à juste « je regarde mes données SEO et je me fiche du reste ». C'est pour ça que dans une mesure de performance brute, oui, tu vas regarder tes données, par exemple, Search Console, mais il va falloir quand même bien prendre en compte tout le travail qui est fait au niveau de l'architecture des pages, qu'est-ce qui va être utilisé pour construire ton site, est-ce que tout va être crawlable, la partie UX, il ne faut surtout pas l'ignorer, donc parfois t'as des décisions UX qui sont prises, ça peut avoir un impact sur la partie SEO, donc là à ce moment-là, personne n'est d'accord, on est là, on va tester, et puis surtout, comment les personnes veulent faire vivre leurs produits, parce que parfois t'as des gens qui disent moi ce produit il m'intéresse pas, je veux le fusionner avec un autre produit, et toi t'es là mais si on commence à merger les deux produits, ça peut avoir un impact sur le trafic, parce qu'aujourd'hui c'est grâce à ce produit que t'es trouvable, par exemple.
Moi, Arnaud, ce que j'aimerais réagir là-dessus, c'est certes, c'est pas que technique, mais tu as quand même besoin d'un bagage technique. Tu peux travailler dans le SEO si tu n'as pas le background technique, mais tu as utilisé des termes. Enfin, ou peut-être je vais te poser la question, les gens qui sont autour de toi, qui bossent dans le SEO, ils ont tous un petit vernis technique pour comprendre le code, l'HTML, le serveur, comment ça fonctionne. Ça fait partie du job, non?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont me détester par ce que je vais dire, c'est que tu ne peux pas être SEO si tu n'es pas un minimum technique. Tu as toute la partie contenu, tu as toute la partie analyse de marché, voir comment le marché évolue, marché en ligne, et être en mesure d'anticiper ça. Tu as la partie lien et effectivement, tu as la partie technique. Quoi. Donc, c'est lire du HTML, CSS, du JavaScript, comment est-ce que Google peut crawler un site, est-ce que les pages sont rendues correctement. Tout ça, c'est super important et ça ne peut pas être ignoré.
Mais en fait, Arnaud, je pense que c'est un profil, enfin les profils SEO, les bons profils, c'est des profils extrêmement rares parce qu'ils sont complets. Il faut comprendre la technique, il faut comprendre le business, il faut comprendre le design, il faut comprendre l'algorithmie, etc. Tu parlais d'analytics, mais en fait, c'est tellement lié. Et puis ensuite, on fait quoi une fois qu'on a compris ça? Donc, c'est pour ça que c'est particulièrement difficile. Les outils sont là pour aider, mais si tu n'as pas le vernis, en tout cas une connaissance à minima moyenne sur tous ces sujets, c'est dur de comprendre tous les aspects. Quoi.
Et alors, la deuxième chose, c'est quand tu fais du e-commerce, et surtout du e-commerce à l'international, comme c'est bon cas, il faut bien que tu segmentes ton marché par intention utilisateur et par pays. Parce que les résultats dans les SERP vont être différents d'un pays à un autre. L'appellation d'un même produit est aussi différente d'un pays à un autre, même si c'est la même langue. Par exemple, tu as certains pays au UK versus Canada versus US, c'est pas le même nom. Les attentes des clients du marché sont différentes. Donc, je peux te donner un exemple. Par exemple, pour un produit qu'on vend aux États-Unis, les gens vont se focaliser sur le matériau du produit, alors qu'au Canada, les gens vont taper le nom du produit avec Canada derrière parce qu'ils veulent être sûrs de tomber sur un site qui vend au Canada et pas aux États-Unis parce que les deux marchés sont vraiment très proches l'un de l'autre.
Et donc ça conditionne comment tu vas nommer tes pages, les informations que tu vas mettre sur la fiche produit, etc. Et là, tu pars de ce que les gens y tapent et ce qu'ils recherchent.
Ouais. Exactement. Et tu n'as pas envie que les gens, par exemple, y ait une impression de ton site web sur la mauvaise version régionale de Google, parce que du coup, les gens vont arriver, par exemple, ils font une recherche au Canada, ils arrivent sur la version US, ils ne peuvent pas commander, donc là, tu perds des visites au final.
Ok, et Arnaud, et le troisième, alors troisième différenciation avec un site e-commerce?
C'est que tu vas vraiment analyser l'évolution de la demande, donc la demande de ta marque, la demande de tout ce qui est produit sans le nom de la marque, et aussi l'évolution de la demande de tes produits avec le nom de la marque. Et ça, c'est super important parce que plus tu vas avoir des gens qui vont chercher des produits associés à ton nom de marque, donc par exemple, Vista, ils sont très connus pour les cartes de visite, même si on ne vend pas que ça, c'est vraiment super qualitatif et c'est le genre de choses que Google enregistre. Plus les gens, tu as par exemple Vista Print, Business Card, ça va quand même, c'est super qualitatif. Donc, tu sais que les gens associent un produit à une marque Et ça, c'est important parce que c'est un combat permanent avec des concurrents d'un point de vue visibilité par pays et par catégorie de produits, surtout avec les saisonnalités où Google s'amuse parfois à changer un peu le SERP, plus la gestion du cycle de vie d'un produit. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Par exemple, un produit n'est pas disponible, le prix change. Donc là, il va falloir prendre tout ça en compte pour dire, bah là on a perdu des perfs parce que je sais pas, le prix est trop cher ou le produit n'est pas disponible depuis 2 semaines. Donc les gens ne cliquent plus chez nous, ce genre de choses. Donc il faut quand même bien suivre et c'est ça. Tu suis la demande et c'est un combat assez intense.
Et le SEO, il va... Alors c'est une question hyper ouverte là pour la fin, mais on va dire, c'est quoi les grandes tendances pour l'année prochaine sur le SEO e-commerce? Est-ce qu'il y en a certaines ou pas? Il y a des grosses tendances nouvelles qui arrivent ou c'est la continuation de la continuité de ce qu'on voit?
Au niveau des tendances, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de particulier par rapport au e-commerce. Après, bien sûr, tu as des choses qui sont assez abordées, par exemple le vocal search, ce genre de choses. Ouais. Pour l'instant, je trouve que ça en est encore vraiment à ses débuts, même si il y a des cas à gauche à droite. Je pense quand même ce qui reste à faire et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne font pas, c'est se focaliser sur la recherche Google. C'est quelque chose... OK, que tu fais dans ton métier, mais tous les autres formats de contenu. Par exemple, sur YouTube, même si ça existe depuis des années, il reste encore plein de choses à faire dessus. C'est quand même le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Il reste encore de la place. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est prendre avantage de la compréhension de ce que tu tapes par Google. Parce que de plus en plus, Google, avec que ce soit machine learning ou compréhension des requêtes, est capable d'associer des entités à d'autres entités, de lier des idées entre elles. Donc, tu as tout ça à prendre en compte derrière et voir comment tu peux tirer profit de cet avantage.
Ça, c'est le concept de Knowledge Graph, n'est-ce pas, Arnaud?
Ouais, tout ce qui est Knowledge Graph, schéma, donc données structurées. Quelque chose d'assez fun.
Ok, et tu parlais un peu de vidéo, parce que là, quand on fait du live shopping, par exemple, comment est-ce que tu référencies ça? Tu référencies à la page, mais peut-être pas la vidéo. Donc ça aussi, tu sens que c'est un gros challenge, l'explosion de la vidéo et le fait de pouvoir le référencer ou de le rendre référençable? Ou ça a toujours existé et finalement, c'est pas un challenge?
C'est un challenge parce qu'il faut savoir, référencer une vidéo, ça peut se faire relativement facilement, mais c'est surtout, tu vas vouloir ressortir sur quoi? Cette vidéo, elle est censée ressortir sur quoi? Et puis surtout, tu vas vouloir mettre ta vidéo sur ton site ou sur YouTube? Et la partie mobile, j'ai oublié ça, mais tout ce qui est mobile, c'est quelque chose qu'il faut suivre parce que Google change vraiment régulièrement l'aspect des résultats de recherche, que ce soit sur desktop ou mobile. Ils testent beaucoup de choses. Alors surtout aux États-Unis, ici, ils testent pas mal de choses pendant 2-3 semaines, puis après ça dégage, puis ça revient. Mais c'est bon de voir qu'est-ce qu'ils testent et de se dire, OK, ils testent ça, ils testent ça. Donc, faut peut-être que je tienne compte de ce genre de changement pour un futur éventuel.
Arnaud, comment on fait pour te contacter ou pour en savoir plus? Est-ce que tu as un blog, un podcast ou quelque chose où les gens ils peuvent déjà avoir plus de connaissances et comment ils font pour te contacter?
Sur LinkedIn, tout simplement, Arnaud Mangassarian, ou sinon mon site web perso, ramenos.net, et dessus, il y a les liens vers tout ce que je fais, mon contact et tout ça.
On va tout mettre en commentaire, donc les gens peuvent simplement, les fameux gens, ceux qui sont intéressés, ils peuvent juste cliquer et puis entrer en contact avec toi. Arnaud, c'était passionnant. Enfin, moi, tu vois, j'ai commencé ma carrière dans le j'ai fait une petite période de référencement, donc c'est toujours SEO, c'est toujours un sujet qui me tient à cœur, et on pourrait parler pendant des heures, donc je suis certain qu'on sera amené à échanger sur d'autres sujet avec Laetitia. Merci beaucoup Arnaud et au plaisir de t'avoir très prochainement.
Merci à vous deux, à bientôt.
Reco micro, micro reco, au micro, on fait notre reco, écoutez-la, illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Adrien, est-ce que tu nous ramènes une reco micro depuis San Francisco?
Non, pas du tout. Je vais dans le périmée. Tu sais, il y a une date de péremption des fois sur les recos, mais là, je crois que c'est fini, quoi. Elle a plus de 10 ans. Bah ouais, en fait, c'est des fois, c'est des trucs tellement classico-classiques, tu te dis, c'est pas une reco. Mais comme c'est remonté sur le chat il y a quelques semaines, je me suis dit, j'allais en profiter pour les personnes qui sont pas dans le groupe WhatsApp, le Café de l'e-commerce. C'est le blog de Frédéric Cavazza, alors qui est moins actif depuis quelques années. Pour rappel, Frédéric Cavazza, un ancien d'SQLi, d'agence, ça fait peut-être 10 ans qu'il a un blog, il a son compte, il fait du conseil en transformation digitale. Je ne sais pas si exactement c'est comme ça qu'on pourrait le caractériser. En tout cas, son blog, il est toujours pertinent. C'est des articles de fond. Il aime bien aussi faire des infographies, en tout cas des visuels qui sont assez intéressants. Je trouve parfois qu'il a une vision assez high level, stratégique. Donc j'avais arrêté de le consulter depuis un petit moment. Mais là, ça fait peut-être un bon moment, plusieurs mois, même peut-être je crois depuis un an, qu'il parle beaucoup de Web3. Donc, comme c'est le sujet sur lequel on parle beaucoup là depuis quelques depuis quelques épisodes. C'est complètement pertinent que vous alliez jeter un œil, retrouver un petit peu son avis sur le métavers, sur le Web3, sur les NFT, etc. et comment ça peut impacter les marques ou les sociétés. Donc, Marreco, c'est le blog de Frédéric Cavazza, si vous ne le connaissez pas encore. Laetitia, quel est ta reco?
Eh bien, moi, c'est une infographie. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'infographie. En plus, j'adore vraiment ça, les infographies. Et c'est une infographie qui est éditée par Payplug, vous savez, cette solution de paiement. Dans une simple infographie, ils ont répertorié les 10 tendances e-commerce immanquables pour l'année 2022. Et allez-y, parce que franchement, il y a des choses qu'on ne voit pas partout. Par exemple, du web design positif, du ciblage par les first party data, ou alors de la production à la demande. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter. Et je trouve que cette infographie, elle nous ouvre un peu les chakras du e-commerce. Donc allez-y, téléchargez-la. Il faut quand même que vous renseigniez un minimum d'informations, mais je vous assure que ça vaut le coup parce que Payplug produit souvent du très très bon contenu. Et là, on est dans le haut du panier du contenu.
En parlant de panier, justement, Laetitia.
Eh bah oui. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, on s'amuse. Adrien est le maître du jeu et s'amuse autour des sujets du digital. N'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté. Vous qui êtes en train de nous écouter alors que vous êtes en train de courir, de faire le ménage, de vous engueuler. Bref, répondez à ces questions. Adrien, qu'est-ce que tu as prévu
Personne
pour
ne s'engueule quand on écoute le podcast, on fait la paire. écoute Laetitia, j'ai un chiffre de la semaine et un kikadi. On va commencer tout de suite. Le chiffre de la semaine, c'est 8. Alors, 8, c'est en mois la durée moyenne d'un travailleur Amazon. La durée de contrat moyenne d'un travailleur Amazon.
Ah, de contrat ou la durée sur laquelle il reste. Et au-delà du mois, il se dit, je m'en vais.
Voilà, c'est ça. En moyenne, il reste 8 mois chez Amazon. 100 milliards, la somme perdue par ton copain Marc en une journée. Marc Zuckerberg. Et où c'est sur 10 en nombre d'utilisateurs sur 10 qui consultent la catégorie décoration intérieure sur Pinterest. Donc, 8 utilisateurs sur 10 consulteraient la catégorie décoration intérieure sur Pinterest.
Bah, c'est Pinterest.
Ouais, c'est ça, c'est ton dernier mot?
C'est mon dernier mot.
Eh ben non, la bonne réponse. Alors, déjà pour Pinterest, c'est 9. C'est la catégorie la plus consultée.
Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit ça.
Parce que c'est 9 sur 10. Je trouvais ça vraiment. 90% des utilisateurs vont sur cette catégorie.
C'est pour ça qu'ils développent des fonctionnalités avec de l'IA sur la déco et tout.
Ouais, c'est complètement ça. Alors, pour la somme perdue par Mark Zuckerberg, on n'est pas à 8 milliards, mais on est à 30 milliards. Et en fait, c'était 8 mois. C'est la moyenne pour de contrat moyen chez Amazon.
Ouais, c'est pas mal.
8 mois, c'est. C'est pas mal? Pourquoi tu dis que c'est pas mal?
Bah, vu les conditions de travail, moi je t'assure que je reste pas une heure.
Alors, 8 mois. Après, il ne faut pas non plus trop exagérer, mais oui, les conditions sont mauvaises. Enfin, c'est terrible tout ce qui se passe. Mais quand on compare à la moyenne aux États-Unis, parce que là, on parle des États-Unis, sur 155 millions de travailleurs, la moyenne, c'est plus de 4 ans. Donc, on est plus de 4 ans. Et là, c'est Amazon, c'est 8 mois. Donc, on est à 1/6 par rapport à la moyenne. Donc, c'est vraiment complètement. Enfin, tu vois, il y a un vrai problème. Un des problèmes également au-delà des conditions, c'était qu'ils avaient capé ce qu'on appelle les cols blancs, donc les personnes qui travaillent dans les bureaux, à 160 000 $. Ça paraît beaucoup, enfin ça peut sembler beaucoup, mais quand tu travailles aux États-Unis pour ces postes de développeurs, par exemple, tu peux être payé beaucoup plus ailleurs. Donc ils avaient beaucoup de mal à retenir également les personnes qui étaient bien payées. Et puis il y avait beaucoup de stocks et quand la croissance est moindre, les options elles sont moins intéressantes. Bref, il y a plein de raisons. On vous a mis un article, mais donc la bonne réponse était 8 mois. On passe au jeu suivant, Laetitia.
Allez, un petit kikadi.
C'est le kikadi. Alors, la phrase est la suivante. Et déjà, peut-être que tu sais déjà qui l'a dit. Amazon, tout de A à Z, en passant bien par le C de cynisme et le P de prédation, sans oublier le O d'optimisation.
Ah, ok, oui, alors, ça n'a rien à voir, c'est l'élève d'alphabet.
Alors, je te donne les propositions. Ouais. Il y en a 4. Sébastien Badeau, ex-DG d'Alibaba, ou DG d'Alibaba quand il a pu le dire. Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ou Aurel San, rappeur contemporain.
Non, mais d'emblée, quand tu l'as dit, je pensais à Bruno Le Maire et du coup, je vais rester fidèle à la première idée qui a popé dans mon esprit. Bruno Le Maire. Eh bien non.
Et non, malheureusement, c'est Alexandre Bompard. Non,
quoi?
J'ai envie de dropper un truc un peu chelou.
Bompard?
Non. Non, j'étais étonné de le voir. Alors, ça date déjà il y a quelques mois, donc peut-être que certains auditeurs le savaient déjà. Je suis tombé dessus et donc il l'a fait ça, je crois que c'était l'été dernier ou en septembre dernier. J'ai cru, ça c'est une punchline de rappeur, tu vois. Enfin bon, c'était assez virulent. Et bon, alors, j'ai pas le contexte. J'aurais pu regarder un petit peu pourquoi il avait dit ça. Il a répondu à quoi, mais sûrement encore une autre polémique, sûrement quelque chose autour de l'optimisation fiscale des impôts qu'il ne paye pas. Ou en tout cas, bon, voilà, j'ai trouvé ça assez fort, enfin, fort, je sais pas, de la part d'un PDG de Carrefour de dire ça. Ou alors peut-être que c'est fake news et c'est fake tweet et on va encore me dire que c'est que je
comprends
des choses, mais non. Ouais, voilà, c'est ça. Non, normalement, c'est ça. Donc, voilà,
c'était assez ouf.
Voilà, maintenant, je mets tout des guillemets à certaines choses, parce que après, ça va aller loin. Bah, écoute, Laetitia, t'as perdu pour une fois. Je crois que c'est très rare que tu
n'aies pas de bonne réponse. Petite semaine pour ma part.
Ouais. Mais ce n'est pas bien grave.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site Le Café de l'e-commerce qui a fait peau neuve. Laissez-nous 5 étoiles, laissez-nous des commentaires, écrivez-nous. Ah, j'aurais pu le dire, il y a encore beaucoup de gens qui m'ont écrit sur LinkedIn et qui poursuivent les débats avec moi. C'est très rigolo et c'est très intéressant. Sur LinkedIn, en privé, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute.
Et puis, merci encore parce qu'on a dépassé les 100, enfin, on est arrivé aux 100 notes sur Apple Podcast, donc c'est super. On a dépassé, on était de 99 pendant plusieurs semaines, donc on est très contents. On a des super bonnes notes, donc n'hésitez pas encore une fois à le partager autour de vous. Et ça nous ferait, c'est la meilleure des récompenses. À la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine, Laetitia.
Ciao, ciao.
Écoute, je te menace pas ni rien. Je te respecte beaucoup, tu le sais. Mais ne me mets pas dans une position délicate.
D'accord? Ça va.